Tout à l'heure, pour terminer notre culte, je vous ferai chanter le Notre Père, parce que je trouve que dans nos églises évangéliques, par peur de tomber dans la routine, on ne dit jamais la prière que le Seigneur nous a apprise, alors que c'est la seule qu'il nous a laissée. Et je trouve que nous autres évangéliques, on devrait de temps en temps la dire ensemble. Et alors, puisque parfois les gens ont de la peine à s'en souvenir parce qu'ils l'ont quasiment jamais dite de leur vie, eh bien, j'en ai fait une chanson, comme ça c'est plus facile à se souvenir. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, on peut mettre le PowerPoint de la prédication. J'aime bien pouvoir vous laisser quelques petites images parce qu'il me semble que ça fixe un petit peu mieux le... Non, c'est vrai ? Oh ben, elle n'est pas déterminante. C'est une facture, on peut la laisser. Merci. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, les versets 7 à 11, et c'est parfois des versets qu'on aimerait bien extirper avec une lame de rasoir de notre Bible parce que ça dérange un peu. Jacques 5, 7 à 11, prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge se tient devant la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous aussi, vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Un autre texte dans 2 Corinthiens, chapitre 12, les versets 1 à 10. Alors, marche pas. C'est un autre fichier. Oui, il y avait 2 fichiers sur la clé. Ça y est, il a trouvé. 2 Corinthiens 12, 1 à 10. Il faut se glorifier, dit Paul. Ça n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il fut ravi au troisième ciel. En parenthèse, les commentateurs s'accordent pour dire que Paul parle de lui-même, mais par modestie, comme vous, vous êtes modeste du reste, hein, par modestie, Paul ne veut pas se mettre en avant avec cette révélation. Et je sais que cet homme, était-ce en son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit et ou entend de moi à cause de l'excellence de ses révélations. Donc c'est bien lui. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Forget it. » Non, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cette semaine, nous avons accompagné mon papa dans sa dernière demeure. Et nous étions heureux de le savoir dans la gloire, dans sa 94e année. Il désirait tellement rejoindre le Seigneur et se demandait pourquoi ça tardait. Il disait à mon cousin, « Tu vois, là, j'ai la sonnette, je sonne et on vient me chercher. Mais la sonnette du Seigneur, elle est où ?» Ça, c'était tellement lui. Mais j'ai toute une réflexion à partir de l'accompagnement que l'on accorde aux âgés, en maison de retraite ou à domicile. Parce que ces personnes âgées dépendent tout à fait de ceux qui, autour d'eux, pourvoient leurs besoins. Personnel soignant, aide à domicile, aumônier, médecin, proche aidant, pasteur, etc. Et l'œuvre de chaque intervenant autour des âgés, il y a ceci en commun, tous les efforts conjugués visent à améliorer les circonstances et le quotidien de ceux dont ils s'occupent, n'est-ce pas? C'est ça qu'on vise, c'est faciliter la vie. Et c'est en général ce que nous faisons lorsque nous nous occupons de quelqu'un autour de nous qui rencontre des difficultés. Nous essayons d'ouvrir une porte qui conduit hors de l'épreuve lorsque nous aidons quelqu'un, lorsque nous faisons de la relation d'aide, lorsque nous prions avec quelqu'un, lorsque nous partageons nos biens avec quelqu'un dans le besoin. Nous essayons d'ouvrir une porte pour que la personne sorte de l'épreuve. Alors on pense que tout naturellement, Dieu devrait toujours agir comme cela avec nous, n'est-ce pas? Lorsqu'en vient l'épreuve, Dieu, c'est son job. Hein? Il devrait travailler à changer nos circonstances. Il devrait endosser le rôle de tous ceux qui s'activent auprès de ceux qui sont dans l'épreuve. Dieu devrait le faire. Il devrait nous soigner, nous consoler, nous sortir des difficultés. Et sachant qu'il est tout-puissant, eh bien nous sommes d'avis qu'il devrait résoudre tous nos problèmes, un peu comme par enchantement, c'est-à-dire rapidement et miraculeusement. C'est ce que nous pensons de Dieu. En tout cas, c'est ce que nous lui demandons en premier, la plupart du temps quand nous sommes dans l'épreuve, n'est-ce pas ? Quoique certains commencent par se plaindre. Mais nous prions, Seigneur, secours-moi, délivre-moi, fais-moi sortir de mes difficultés. Et personne n'a le droit de vous blâmer de le faire. L'Écriture sainte, du reste, elle-même nous exhorte à invoquer le Seigneur au jour de la détresse. Vous avez le droit. C'est juste, c'est normal. Et les difficultés devraient, du reste, toujours nous inviter à prier comme cela, au lieu de d'abord nous plaindre, et surtout de nous plaindre vers tout le monde que l'on rencontre. Alors, nous ne devons pas nous lasser de chercher le secours de Dieu. Nous avons le droit d'insister. Jésus lui-même nous a exhortés à demander avec persévérance, avec foi, avec constance. Et souvent, regardez vos vies, le Seigneur nous a encouragés en agissant comme on le demandait, il nous a exaucés. Si je faisais lever la main ici de tous ceux qui ont reçu un exaucement, je pense que tout le monde lèverait sa main. Et il nous a régulièrement donné ce que nous désirions. Il nous a gratifié de grâce. Et puis nous avons trouvé le Seigneur merveilleux. Et votre louange tout à l'heure, c'était la reconnaissance de vos cœurs envers un Dieu merveilleux. Mais est-ce que le Seigneur a toujours exaucé? Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que notre conjoint non-croyant, notre enfant rebelle, nos bobos ou maladies plus sérieuses, toutes ces circonstances, est-ce qu'elles vont automatiquement et obligatoirement évoluer comme nous le demandons ou souhaitons? On va changer d'image. Attends. Non, alors c'est celle d'avant. Voilà. On changera à mon commandement. Posons-nous les questions. Les parents, est-ce qu'ils travailleraient vraiment au bonheur de leurs enfants en faisant s'évanouir devant eux toutes les difficultés, en leur accordant toujours tout ce qu'ils souhaitent ou qu'ils demandent avec insistance? Ben évidemment pas. Ah, je vois Marco qui réagit là. Scénario connu? Oui. Alors, on peut gâter un enfant de cette façon. Je connais des parents qui ne disent jamais non à leurs enfants, pauvres enfants. On peut gâter un enfant comme ça, mais ce n'est pas ainsi qu'on peut l'élever dans le sens noble de ce terme. La discipline, les difficultés, les contrariétés qu'il doit apprendre à gérer sont aussi nécessaires que l'amour à la bonne formation d'un caractère harmonieux de son enfant. L'enfant doit pouvoir être confronté à la frustration. Et nous constatons régulièrement que ceux qui n'ont pas joui de circonstances faciles dans leur enfance, leur jeunesse, semblent réussir mieux dans la vie que ceux qui ont eu une cuillère en argent dans la bouche. Du reste, il y a un proverbe indien qui dit: quand on est né dans le feu, on ne se fane pas au soleil. Alors j'imagine que nous sommes globalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pourtant, lorsque l'épreuve nous frappe, nous, enfants de Dieu, est-ce que nous ne sommes pas souvent décontenancés? Pourquoi? Ou pour quoi? Notre confiance ne se manifeste-t-elle pas alors comme étant bien théorique et bien souvent fragile? Nous avons la foi en bloc, mais le doute dans le détail, hein, souvent. On ne remet pas en question l'existence de Dieu, etc., mais nous doutons de sa capacité à nous aider à nous sortir de l'épreuve. On va changer. Voilà. L'épreuve révèle mieux que toute autre chose ce qu'il y a vraiment au fond de nous. Si, si, je vous assure. On raconte que le célèbre missionnaire en Chine, Hudson Taylor, qui est mort en 1905, il se trouvait un jour dans une auberge en train d'accueillir un tout nouveau jeune missionnaire arrivé sur le champ. Et le vieux missionnaire a rempli un verre d'eau jusqu'au bord, puis a donné un violent coup de poing sur la table. Et ça a éclaboussé la nappe tout autour. Et complètement interloqué, le jeune missionnaire entend Hudson Taylor dire ceci: vous subirez vous aussi des coups durs. Ici, vous aurez des chagrins et des déboires, mais souvenez-vous qu'ils feront rejaillir de vous seulement ce que vous avez déjà au-dedans. Faites les épreuves, montrent ce qu'il y a dedans. C'est le révélateur de nos cœurs. Car il faut le reconnaître, c'est généralement ce qui se manifeste dans le temps de l'épreuve qui dure, c'est notre vrai fond qui refait surface. Alors, si notre foi est superficielle, ou si elle n'est basée que sur des bonbons spirituels que sont les exaucements, si nous avons développé un caractère d'enfant gâté, nous allons être abattus, perdus, désorientés, voire fâchés contre Dieu. C'est alors que va se démontrer si notre bonheur a des racines terrestres, dépendant des choses d'en bas, ou si notre bonheur jaillit d'une source plus élevée que nous-mêmes, s'il découle d'une communion confiante avec Dieu. Vous saisissez? Je vous embête ce matin, j'ai l'impression. Non, mais je rigole, hein. Ainsi, quand serait-il si, au temps de l'épreuve, tes circonstances, malgré ta foi, ne devraient pas changer? Ben, c'est là que l'exemple biblique nous indique ce qui devrait changer. On peut changer d'image. Et l'apôtre Paul, vous connaissez par cœur sa vie, ses expériences, ses aventures dans les Actes, etc. Ça nous inspire. Nous savons qu'il a été l'objet de révélations sublimes et de soufflets cruels. Il a vécu des succès extraordinaires et des échecs, des visions et des épines. Ici. Quand une écharde, c'est-à-dire une épine, s'enfonce dans sa chair, il supplie le Seigneur par trois fois de l'en délivrer, on l'a lu, et pourtant, malgré sa foi et sa consécration dans le ministère, ses circonstances ne changèrent pas. Zut. Donc, enlevons de notre tête la conception que fidélité et foi au Seigneur égale assurance contre tous les risques. Alors, est-ce qu'on doit comprendre que sa prière n'a pas été exaucée? Sa prière était certainement celle qui n'exigeait rien de Dieu, mais qui lui demandait humblement une grâce. Vous savez, des fois, je suis interloqué de voir dans certains milieux évangéliques, on donne des ordres à Dieu. Comme si on avait trouvé la ficelle dans le dos de Dieu pour le faire agir. Hein? Notre prière doit toujours être humble. Je me souviens d'une guérison extraordinaire d'un jeune de 20 ans qui était atteint d'un cancer et que l'on disait perdu et qui a été guéri miraculeusement. Mais nous avons jeûné et prié dans les larmes, dans la supplication humble et dépendante de Dieu, mais dans l'obéissance à sa volonté. Puis Dieu a fait grâce. Puis j'ai vu d'autres circonstances où on a dit, il faut chasser, lier, proclamer, etc. Et puis avec tout ce qu'on aurait proclamé, la terre serait déjà un paradis. Non, notre prière doit être humble, elle ne doit rien exiger. Mais elle doit venir humblement devant Dieu et demander une grâce. Finalement, toutes les prières sont exaucées quand la foi se soumet à la toute sagesse de Dieu. Car la véritable puissance dans la prière, elle ne s'exerce pas pour soumettre Dieu à notre volonté, mais bien pour nous aider à nous soumettre à sa volonté. D'accord? Il y a une réponse à la prière de Paul, mais certainement pas celle qu'il aurait souhaité espérer, puisque par trois fois il demande la même chose. Quand il comprend que ses circonstances ne changeront probablement pas, eh bien il ne va pas réagir en se plaignant, et en s'enfermant dans la mélancolie spirituelle, comme si Dieu l'abandonnait. Mais c'est lui qui va changer face à ces circonstances. Vous comprenez? Et ça, c'est un miracle de la grâce. Mais c'est aussi un miracle de notre volonté, que nos cœurs changent face à nos circonstances qui, elles, ne changent pas. Alors, il a décidé de ne pas se laisser ruiner et enfermer par son épreuve, mais il va faire de son épreuve un marchepied. Il va la surmonter et il va laisser à la grâce de Dieu le soin de transformer l'épreuve en bénédiction. Car l'aide du Seigneur ne se propose pas d'abord dans le changement de nos circonstances, mais dans le changement de l'homme. pas dans ce qui est extérieur, mais dans ce qui est intérieur, dans ce qu'il est profondément. Les circonstances qui ne changent pas sont appelées à nous changer, nous. Aux Philippiens, Paul écrivait ceci, et ça complète les textes lus tout à l'heure. « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai appris. » Ah. Donc, ce n'est pas automatique et naturel. Il faut l'apprendre. Ce n'est pas venu tout seul. Mais dans cet apprentissage, frères et sœurs, nous pouvons compter sur la présence de Jésus nous fortifiant. Lui a demandé, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ?» Non. Il était jusqu'au bout. Quand le chrétien comprend tout cela et l'admet, alors il fait alors l'expérience de la grâce suffisante. Cette grâce suffisante qui va lui aider à vivre victorieusement par l'esprit qui l'anime, à ne pas demeurer victime de ses circonstances, mais à les accueillir devant Dieu. C'est ainsi que les épreuves peuvent se transformer en tremplin vers de nouvelles expériences. L'acceptation. L'acceptation. Je me suis toujours dit que si j'avais une maladie incurable, après avoir demandé l'onction d'huile, après avoir prié pour ma délivrance, ma guérison, et avec mes frères et sœurs avoir supplié le Seigneur, ensuite, je me préparerai, s'il n'y a pas une réponse claire dans ma santé, je me préparerai pour le pas de porte que Dieu m'offre. Je me souviens que nous prions pour la femme d'un de nos anciens il y a des années. Et puis, malheureusement, elle était accompagnée par des jusqu'au boutistes du bras de fer avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Il ne faut jamais faire ça. Pas la bonne attitude. Et puis, on se trouvait à Fort Lauderdale, à Calvary Chapel, avec des amis et Claudine. Et le prédicateur, d'un coup, au milieu de son sermon, et j'ai ne retenu que ça, parce que le reste, voilà. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et le prédicateur dit ceci. Mais nous chantons, vois mon Sauveur face à face, j'ai soif de ta présence, etc. Puis quand le Seigneur nous appelle, au travers d'une maladie ou autre, d'un coup on ne veut plus y aller, hein ? Il faut arrêter de chanter des choses pareilles si on n'est pas prêt à rencontrer Jésus. Et je crois que, voilà, j'ai appris, ça s'apprend, hein ? Vous savez, ce n'est pas au travers de la délivrance de l'épreuve, mais bien dans l'épreuve que l'enfant de Dieu peut réaliser le mieux, toute l'efficacité de la grâce et du secours de Dieu en lui, dans son être intérieur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est quoi toutes ces choses ? Il vient de citer tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et toutes ces choses sont les circonstances. Dans ces circonstances, nous sommes plus que vainqueurs, mais non pas parce qu'elles ont été poussées, mais parce que Jésus était là avec nous. Amen. Je me plais dans les faiblesses. On l'a entendu tout à l'heure dans la lecture de 2 Corinthiens. Je me plais dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions et dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, C'est alors que je suis fort. Je me souviens d'avoir visité la tour de Constance où Marie Durand avait été emprisonnée pour sa foi alors qu'elle était jeune fille. Et elle sort de sa prison, vieille femme, avec un visage tellement rayonnant que les dragons du roi de France pleuraient et lui ont fait une haie d'honneur alors qu'elle sortait enfin libre. Mais Marie Durand avait réussi à graver dans sa prison « Résister ». Et ça, c'est la puissance de Dieu dans la faiblesse. C'est la puissance de Dieu dans les circonstances qui ne changent pas. C'est la présence de Jésus dans ce qui fait parfois notre malheur humain, mais qui finalement transforme nos cœurs à la ressemblance de Jésus. Voyez-vous, la puissance de Dieu n'a pas changé les circonstances de l'apôtre, mais la puissance de Dieu l'a changé lui. De fait, et selon ses dires, cet ange de Satan qui le souffletait fut changé à son insu en un instrument utile à la gloire de Dieu dans la vie de Paul. Voyez où je veux en venir? Voilà ce que Dieu est capable de faire quand il trouve dans nos cœurs une confiance soumise et ouverte à son secours, et non pas seulement à celui que nous choisissons, à son secours. Alors, il nous fait triompher de nos enfers et de ce qui nous ruine humainement. La prison, alors, peut devenir un havre de paix. La maladie, un lieu de communion et le deuil, une consolation. Ah Seigneur, vous vous souvenez peut-être les plus âgés parmi nous de Richard von Brandt qui avait été emprisonné par les soviets pour sa foi et qui avait été capable d'écrire la Sainte Cène avec rien. Comment est-ce qu'il pouvait écrire une chose pareille? Parce que dans sa prison, la présence de Jésus était tellement palpable qu'il pouvait faire semblant de prendre le pain et le vin et vivre une immense bénédiction. Je vous donne encore une histoire. Il existe en Inde, au Bengale, un très grand hôpital spécialisé dans le traitement de la lèpre qui malheureusement existe encore sur la terre. Il s'appelle le Purula Hospital. Il fut fondé par un couple de missionnaires au début du XXe siècle dans des circonstances assez particulières. Ils ont perdu leur fille unique, atteinte de lèpre. Ils auraient pu dire, « Voilà le résultat de nos vies de sacrifice. Merci Seigneur, ah ben, chapeau, hein !» Ils auraient pu se laisser enfermer par le chagrin et l'amertume, rentrer en Angleterre et puis se confiner à la maison et puis pleurer toutes les larmes de leur corps jusqu'à la fin de leur jour. Mais ils firent bien mieux que cela. Ils retournèrent sur le champ missionnaire, déterminés à faire quelque chose pour les lépreux qui souffraient comme avait souffert leur fille. Ils vont fonder ce qu'ils ont appelé d'abord l'asile de Purula, qui va devenir plus tard le plus grand hôpital du monde pour le traitement de la lèpre. Ils ont choisi de ne pas se laisser emprisonner dans leur chagrin, mais d'en triompher de cette manière, en utilisant leur chagrin pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Ça, c'est un exemple de résilience possible. Lorsqu'on entre dans l'acceptation confiante en un Dieu qui sait tout. Moi, je suis frappé de voir que même parfois des non-chrétiens ayant vécu une tragédie, la perte d'un enfant violé ou la disparition d'un enfant enlevé et autres, et qui sont capables de transformer leur épreuve en quelque chose de positif pour aider, pour prévenir. Ils subliment leur douleur en faisant quelque chose de positif avec. Parfois, les non-chrétiens nous inspirent aussi, hein? Oui. Alors, frères et sœurs, je ne connais pas vos circonstances. Mais tous, nous avons dans nos vies des domaines dans lesquels Dieu nous est indispensable, n'est-ce pas? Tous, nous avons des moments dans nos vies où, sans le Seigneur, on perdrait complètement les pédales. Sachez qu'il est là. Sachez qu'il est présent dans vos circonstances. Sachez qu'il sait tout, qu'il ne nous abandonne pas. Mais recherchez sa présence. Et dans cette douce présence, vous allez sentir l'amour de Dieu qui transforme vos douleurs en joie malgré l'épreuve. C'est possible. Alors ne restons pas dans des circonstances qui ne changent pas et dans lesquelles nous nous noyons à tort. Si elles ne changent pas, c'est que nous sommes appelés à changer. Alors donnons un bon coup de talon au fond de notre âme où elle stagne et invitons Jésus. Et laissons-le nous envahir par cette paix qui surpasse toute circonstance et toute intelligence. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, si tu nous avais promis et donné un chemin semé de pétales de roses, nous n'aurions aucun mérite à te connaître, à te servir, parce que nous le ferions par intérêt et pas par amour. Seigneur, je te remercie de ne pas avoir enlevé les pierres de notre chemin. Je te remercie de ne pas nous avoir facilité la vie. Je te remercie parce que l'abondance et la richesse que certains proclament en ton nom, ce n'est pas l'Évangile. Je te remercie de ce que tu veux nous aider à te vivre dans nos circonstances au quotidien, envers et contre tout et malgré tout. Seigneur, tu nous as promis le ciel, pas sur la terre, mais tu nous as promis d'être là, dans chacune de nos circonstances. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu veux à ce point nous convaincre de cela, pour que nos circonstances qui nous minent soient transformées en une paix dont tu es le prince. Alléluia. Je prie pour mes amis, Seigneur, que tu les rencontres aujourd'hui, dans ce beau jour de printemps, et que tu réaffirmes à leur cœur ta présence, ta puissance, dans la faiblesse. Alléluia. Amen. Amen.